Bon, comme disait Job, ce que je craignais est arrivé. Comme ça a été dit par Jean-Paul, cet institut biblique s'inscrit donc dans une série de 3 instituts bibliques qui seront consacrés pour l'annonce de l'évangile aux musulmans, et aux musulmans en particulier de France, puisque nous sommes dans ce quartier et nous avons pas mal de musulmans qui nous entourent, et on aimerait, dans une réflexion bien globale, réfléchir donc à notre manière d'annoncer l'évangile, y compris donc à nos voisins, amis musulmans. Donc je traiterai ce sujet dans 3 instituts bibliques. Le premier se consacrera sur qui sont ces musulmans en France que nous croisons. Un deuxième institut biblique au mois prochain portera sur ce qu'ils croient. On va essayer de faire une petite synthèse de la croyance musulmane. Et enfin, pour le troisième, je vous proposerai des pistes concrètes qu'on peut mettre en œuvre, d'ailleurs aussi bien individuellement que collectivement, pour pouvoir annoncer l'évangile aux musulmans. Pour annoncer l'évangile d'une manière efficace et d'une manière adaptée, nous avons besoin de connaître ces personnes pour lesquelles nous voulons annoncer l'évangile. Les connaître ne serait-ce que pour adapter notre message, ne serait-ce que pour que nous annoncions le même évangile, hein, c'est pas un évangile adapté, mais par contre, adapter notre message, cela est absolument nécessaire, ça a été le cas dans toutes les civilisations et à travers tous les siècles. Donc c'est la raison pour laquelle j'aimerais que nous commencions par un volet historique que j'aborderai à présent. Ce volet historique des musulmans en France nous donnera le recul nécessaire pour avoir une juste appréciation, une juste connaissance de ces personnes. Et puis nous aurons le volet dogmatique, comme je l'avais exprimé, et des pistes pratiques enfin. Pour introduire, idéalement, j'aimerais lire Luc chapitre 10, la parabole du bon samaritain. Ouais, peut-être on va lire ce texte. J'ai du mal à envisager cette étude, cette conférence sans l'introduire par un texte de la parole de Dieu. Donc Luc chapitre 10, j'aimerais lire avec vous les versets 25 à 37. C'est la parabole du bon samaritain, très connue par les chrétiens, mais je vous invite à la lire. Voici un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour le mettre à l'épreuve: Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit: Qu'est-ce qui est écrit dans la loi? Qui es-tu? Le docteur de la loi répond: Tu aimeras le Seigneur de ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, ton prochain comme toi-même. Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. Mais lui voulut se justifier et dit à Jésus: Qui est mon prochain? Jésus reprit la parole et dit à un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le rouèrent de coups et s'en allèrent en le laissant demi-mort. Par hasard, un sacrificateur descendu par le même chemin le vit et passa outre. Un Lévite arriva de même à cet endroit, le vit et passa outre. Mais un Samaritain qui voyageait arriva près de lui, le vit, il a eu compassion de lui. Il s'approcha de lui, banda ses plaies en y versant de l'huile, du vin, puis il le plaça sur sa propre monture, le conduisait à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il sortit 2 deniers, les donna à l'hôtelier et dit: Prends soin de lui, et ce que tu dépenseras en plus, je te le paierai moi-même à mon retour. Lequel de ces 3, dit Jésus, te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? Il répondit: Celui qui a exercé de la miséricorde envers lui. Jésus répond: Va, et toi, fais de même. Qui est notre prochain? Voilà la question qu'il nous arrive, nous aussi, de nous poser. Et c'est lui qui précise très clairement que le docteur de la loi pose cette question, à vrai dire, pour mettre aussi Jésus à l'épreuve. Qui est notre prochain? Sommes-nous prêts à nous rendre le prochain de ces musulmans que le Seigneur place sur notre chemin? Et si tel est le cas, nous ne pouvons pas faire l'économie de les connaître. Je sais qu'on aimerait bien passer directement à vous donner des recettes, comment faire, ce qu'il faut dire, ce qu'il faut éviter face à des musulmans. Vous savez un peu toutes ces recettes-là, mais ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas, des recettes. Il faut les connaître. Musulmans de France, hier, d'hier, d'aujourd'hui, mieux les connaître, mieux connaître pour mieux témoigner. Qui sont-ils? D'où viennent-ils? Et quand sont-ils arrivés ici? Ces questions vont nous permettre de prendre un petit peu de la distance. Et souvent, un regard historique, à vrai dire, permet la distance nécessaire pour mieux comprendre, pour mieux connaître ces musulmans, n'importe quel sujet d'ailleurs. Je me limiterai ici, bien entendu, ce matin, aux musulmans de France. Mais si vous êtes intéressé par les musulmans d'Europe, j'aimerais mentionner d'emblée deux références bibliographiques, deux ouvrages qui peuvent vraiment vous aider si vous êtes intéressé. Le premier, c'est qui a été publié par le CNRS. Vous voyez affiché sous la direction de Rémi Levaux, Musulmans de France et d'Europe. Et le deuxième ouvrage, c'est la revue Esprit. Elle a consacré tout un numéro pour l'islam d'Europe. C'est en janvier 1998, c'est le numéro 239. Et puis, si vous voulez aller plus loin que les musulmans d'Europe, de France et d'Europe, donc si vous voulez regarder plutôt les musulmans aussi, la civilisation musulmane dans le monde, et là, il y a deux ouvrages aussi qui existent en français. Le premier, c'est de Paul Baltin, l'islam dans le monde, et le second, c'est Georges Perronnet, l'islam et la civilisation islamique. C'est affiché, mais je vais un petit peu vite. Après, si vous êtes intéressé, je pourrai éventuellement mettre ces informations à votre disposition. Pour ce matin, si vous voulez encore aller plus loin dans votre réflexion sur les musulmans de France, j'aimerais vous faire trois recommandations d'ouvrages. Le premier, c'est vraiment un grand ouvrage de plus de 1000 pages, sous la direction de Mohamed Harkoun, Histoire de l'islam et des musulmans de France du Moyen-Âge à nos jours. Très belle somme d'informations. Un bon article de Catherine Vitol de Vide, Seconde génération, le cas français, musulmans de France et d'Europe. Et bien sûr, Gilles Kipel, très connu pour ses réflexions sur les musulmans de France et ici en particulier les banlieues. Les banlieues de l'islam, naissance d'une religion en France. Dans mon exposé, je me focaliserai sur le volet historique, sur les musulmans en France, et en particulier ceux qui viennent d'Afrique du Nord, et tout spécialement ceux qui viennent d'Algérie. Non pas parce que je fais ça parce que je suis algérien, mais c'est parce que, pour comprendre le fait musulman en France, il faut considérer la relation entre l'Algérie et la France. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'un des grands spécialistes sur la question, c'est un certain Gilbert Grand-Guillaume, maître de conférence à l'école pratique des hautes études en sciences sociales. Donc, normalement, ça va s'afficher sa citation que je vais vous lire. Le centre de la pensée sur l'islam en France, je parle de l'islam en France, est élaboré par rapport à l'Algérie. L'Algérie a été longtemps colonisée, considérée comme française. Les relations avec elle ont été, sont encore profondes. Une bonne partie de la population française l'a connue, y a vécu, s'est engagée dans son histoire comme fonctionnaire, soldat, militant, ou simple citoyen. Et réciproquement, des millions d'Algériens depuis des décades sont venus en France pour des séjours plus ou moins longs, plus ou moins heureux. L'histoire s'inscrit du point de vue sociétal et qu'on le reconnaisse ou non, une véritable filiation sur le plan d'État comme celui des sociétés. Voilà pourquoi donc il me semble qu'il nous faut considérer cette relation-là. Et lorsqu'on considère, du point de vue toujours historique, il y a trois périodes que j'aimerais mentionner. Trois périodes sur le plan de l'histoire. Depuis les débuts de la présence musulmane en France, la présence récente, hein, je ne fais pas allusion au 7e siècle, 8e siècle, je parle de la présence récente, c'est-à-dire à partir du 19e siècle. Donc, la période des guerres, du 19e siècle jusqu'à 1960. Ensuite, on va considérer la seconde génération de 1960, donc l'immigration d'Afrique du Nord, jusqu'à nos jours, ce qu'on appelle la seconde génération. Et enfin, je vous proposerai aussi quelques mots sur les nouvelles vagues d'immigration qui ont lieu aussi bien les années 90, mais aussi avec les guerres en Orient, au Moyen-Orient, notamment la Syrie. Première période donc, c'est la période qui va de 1800 jusqu'à 1960. La première mention de la présence récente des musulmans sur le sol français remonte à la fin des années 1800. Dans son rapport en 1897, la commission dirigée par Ostave Dupont souligne un témoignage favorable de la population des Pas-de-Calais, en particulier des habitants de Lens, à l'égard des 900 Algériens, dont la plupart kabyles, qui travaillaient dans les mines. Et je cite le rapport, il dit « Aucun grief précis n'a été articulé contre eux ». Et on compte, en ce moment-là, environ 5000 immigrés, donc musulmans, on commence à parler des musulmans, 5000, dont la plupart étaient kabyles, qui sont venus chercher un emploi plus rémunérateur en France. Et ces premiers musulmans, dans le témoignage très apprécié par les Français, ont demandé quelques dérogations pour leurs pratiques religieuses. Et entre autres, ils ont demandé, par exemple, pendant le mois de Ramadan, de faire coïncider le repas du soir avec la rupture du jeûne de Ramadan, ou encore l'abattage des bêtes, selon le rite musulman. Et tout cela n'a pas du tout gêné les autorités locales, etc., la société. Bien au contraire, en 1914, il y a eu une commission qui recommandait à l'État la création d'un organisme qui, entre autres, s'occuperait des mesures pour permettre à ces gens de vivre leur religion en harmonie avec ce qu'ils font, avec leur travail dans la société française. Cette recommandation, bien sûr, ne sera pas suivie de fait pour la simple raison est que cette année-là, il y aura le déclenchement de la Première Guerre mondiale. Avec le début de la guerre, nombreux des soldats qui sont venus d'Afrique du Nord pour combattre dans l'armée française. Avec l'arrivée massive de ces militaires, beaucoup de personnalités nord-africaines ont demandé à ce que, en effet, les funérailles des soldats musulmans, leurs morts, etc., morts à la guerre, respectent les rites islamiques. Les autorités militaires, suivant les recommandations du ministère de la guerre, ont répondu très favorablement à cette demande. Et dès 1915, il y avait des stèles qui indiquaient, par exemple, les tombes des musulmans en France. Des musulmans, c'est-à-dire qui sont tombés dans la guerre en France. Et on voit ainsi apparaître ces stèles à Nogent-sur-Marne, par exemple, à Pantin, à Bagneux, et ainsi de suite. Les deux, peut-être, actes qui vont exprimer cette reconnaissance à l'égard de ces combattants musulmans, cette première reconnaissance, parce qu'il y aura après une autre reconnaissance beaucoup plus importante, c'est la construction de la mosquée du jardin colonial de Nogent-sur-Marne qui a été inaugurée en 1916. C'est la première mosquée qui a été construite. Et ensuite, la construction d'une kouba. Je ne sais pas si j'avais mis... Ah, voilà. Donc, la construction d'une kouba, donc c'est simplement dans le cimetière où ils indiquent la présence des dépouilles des combattants musulmans. Dans les deux guerres, dans l'entre-deux-guerres, pardon, 1920 à 1939, il y aura deux constructions qui vont dire vraiment de manière très forte la reconnaissance justement de la France pour ses enfants musulmans. La première, c'est la construction de la mosquée de Paris. Et d'ailleurs, pour lancer les travaux, il y a eu deux cérémonies. Il y a eu une cérémonie le 22 mars 1922 autour du concepteur et de réalisateur de ce projet, c'est un certain Khador Ben Qabrit. Et la seconde cérémonie a eu lieu le 19 octobre 1922 autour, cette fois-ci, du ministre de la guerre à l'époque, qui était Hubert Lyautey. Le projet de la mosquée de Paris ne répond pas simplement aux besoins de la population, de cette population qui était là, qui est venue aussi aider, combattre dans l'armée française et d'autres aussi qui sont venus ici pour travailler. Donc elle ne répond pas simplement à ce besoin, mais elle répond aussi à un autre besoin beaucoup plus important, c'est la politique internationale et à une diplomatie tout particulièrement adaptée pour les relations au Moyen-Orient. C'était une période relativement complexe, mais je laisse ça de côté pour ne pas mélanger les films, en tout cas pour ne pas vous faire mélanger les films. Malgré la loi de 1905 sur la séparation de l'Église et de l'État, le projet de financer la construction de la mosquée de Paris à la hauteur de 500 000 francs de l'époque, c'était vraiment de l'argent, a été voté quand même par le Sénat et par la Chambre des députés. Le Sénat, par exemple, a voté à 247 voix contre 11 voix seulement. Quant à la Chambre des députés, ils ont voté à l'unanimité pour ce projet. La ville de Paris, qui a été sollicitée à l'époque, a offert le terrain dans le 5e arrondissement, choisi donc face au Jardin des Plantes, dans le 5e arrondissement, où se situe actuellement donc la mosquée de Paris. Il y a d'autres apports, bien sûr, qui vont venir des musulmans eux-mêmes pour la construction, mais aussi des États musulmans qui vont envoyer de l'argent pour construire cette mosquée de Paris. Et la mosquée de Paris sera inaugurée le 15 juillet 1926 en présence du président de la République, Gustave Domergue, à l'époque, et du sultan du Maroc, Moulay Youssef. Avec la mosquée de Paris, la présence des musulmans en France métropolitaine devient visible et franchit un nouveau pas dans la constitution sociale religieuse de la société française. Bien sûr, d'autres mosquées vont voir le jour, comme par exemple celle de Fréjus et ainsi de suite. Mais c'est la mosquée de Paris quand même qui marque le premier acte fort. Seconde construction importante, c'est l'hôpital franco-musulman à Bobigny. Cet hôpital est pris en charge par la ville de Paris et le département de la Seine-Saint-Denis, donc l'État n'était pas engagé directement, officiellement, comme ce fut le cas pour la mosquée de Paris, mais néanmoins, l'État était derrière pour soutenir le projet. Cet hôpital aura une organisation très adaptée aux besoins justement des indigènes nord-africains qui sont venus. Par exemple, les médecins comprenaient l'arabe, les infirmières comprenaient parler l'arabe sans difficulté. La plus grande partie des infirmiers, des médecins, étaient des détachés de départements de l'Algérie. Il y a une salle de prière, un cimetière qui était annexé à l'hôpital. Et donc cet hôpital franco-musulman sera inauguré en 1937 et il prendra le nom d'une manière symbolique d'Avicenne, qu'il garde jusqu'à nos jours, à partir de 1978. Les musulmans entre les deux guerres, si vous êtes intéressé, je vous renvoie au livre que j'avais mentionné sous la direction de Mohamed Harkoun. Et j'aimerais arriver à la dernière phase de ces guerres, c'est cette dernière période, pour évoquer la période entre la Deuxième Guerre mondiale jusqu'à la guerre d'Algérie, c'est-à-dire en 1962. Les rangs de l'armée française étaient remplis de soldats venus d'Afrique du Nord pendant toute la Deuxième Guerre mondiale. C'est un effectif beaucoup, beaucoup plus important que le premier effectif pour la Première Guerre mondiale. L'une des raisons pour cela, c'est parce que il y a eu des promesses qui ont été données aux musulmans d'Algérie, vous savez, à l'époque, l'Algérie française, donc aux musulmans d'Algérie, d'avoir les mêmes droits que les non-musulmans d'Algérie. Donc, entre autres, le droit de vote. Et c'est la raison pour laquelle, le lendemain de cesser le feu, donc le 8 août 1945, une grande manifestation populaire a été organisée dans deux grandes villes en Algérie, à Sétif et à Constantine, pour justement célébrer la victoire des Alliés. Mais cette manifestation a été réprimandée et elle a fini dans un bain de sang. Les chiffres qui sont avancés sont variables selon les sources. Les autorités françaises avancent à l'époque le chiffre de 1165 morts des autochtones. Les autorités algériennes avancent de 45 000 morts. Les services secrets américains parlent de 17 000 morts. Et puis les historiens, aujourd'hui, les plus sérieux, vont jusqu'à avancer entre 8 000 et 15 000 morts. En tout cas, il est clair qu'il y a eu beaucoup de sang qui a coulé parce que les autochtones pensaient, suite à la guerre, à la réussite des alliés à la Deuxième Guerre mondiale, ils allaient avoir les mêmes droits que les Français d'Algérie, mais ils se sont rendus compte. Donc, il y a eu une autre politique qui a été adoptée à cet égard. À partir de ce moment, les Algériens vont commencer sérieusement à réfléchir, à s'organiser au mouvement de résistance et qui va conduire jusqu'à la guerre d'Algérie qui a commencé en 1954 jusqu'à 1962. Beaucoup d'Autochtones, de Français, laisseront, hélas, leur vie dans cette guerre, sans parler des vivants qui vont rester à tout jamais marqués par cette guerre. Et pendant cette période, l'islam souvent a servi comme un ciment pour unir les forces et les énergies pour se mettre en bataille contre la France. Pendant cette période, en métropole, donc de ce côté-ci de la Méditerranée, il y avait un besoin criant de la main-d'œuvre. Main-d'œuvre qui, dans plusieurs domaines en plein essor, comme par exemple l'industrie de l'automobile ou encore les travaux publics. Et pour cela, on a fait venir cette main-d'œuvre d'Afrique du Nord, parce qu'entre autres, elle ne coûtait pas cher. Leurs conditions de vie étaient souvent difficiles, etc. Mais ils sont là pour travailler. Les mouvements de résistance a trouvé un écho, donc le mouvement de résistance de l'autre côté de la Méditerranée, en Algérie, a trouvé un écho favorable ici aussi parmi cette population. Et c'est comme ça, par exemple, qu'il y a eu des moments de résistance qui se sont organisés, des actes de résistance qui se sont organisés ici. Et on assiste vers la fin des années 50, c'est-à-dire 58-60, on assiste à un déplacement de lieux de guerre en quelque sorte. Il y a eu des attentats en France, enfin à Paris, etc. Et en particulier, il y a eu la répression de Maurice Papon, vous savez, c'est au métro Charente, dans le 11e arrondissement, qui a réprimandé donc une marche qui se voulait pacifique, et il y a eu un bain de sang, et ce massacre a été reconnu par la France officiellement, par le voix de son président d'alors, François Hollande, en 2012, à l'occasion du 50e anniversaire de cette manifestation. Donc ça a été reconnu, et vous savez, quand on arrive à reconnaître un certain massacre, donc il y a des historiens qui se sont penchés, et on a pris le temps de réfléchir, et c'est pas simplement sous l'effet de l'émotion. L'islam, pendant donc toute cette période, entre la Deuxième Guerre mondiale et la guerre d'Algérie, souvent les Algériens ont voulu se servir de la question religieuse pour allier à leur cause soit des Marocains, soit des Tunisiens, enfin, ou même au-delà, des musulmans, mais ça n'a pas vraiment porté beaucoup de fruits. Donc, on se rend compte, d'après la plupart des spécialistes, que l'islam n'a pas été exploité comme c'est le cas dans d'autres guerres, par exemple au Moyen-Orient ou ailleurs. Après la période des guerres, maintenant vient une seconde période qui est importante, c'est ce qu'on appelle la seconde génération. Voilà. À partir de 1962, après la déclaration officielle de l'indépendance de l'Algérie le 5 juillet 1962, mais à vrai dire les accords d'Évian ont eu lieu déjà au mois de mars, mais la déclaration officielle c'était en 62, juillet 62. Après cette déclaration, les Français d'Algérie, qu'on appelle par la suite les Pieds Noirs, et les Harkis, c'est-à-dire ceux qui ont collaboré avec les Français, ça dépend comment vous voulez les qualifier, soit des collaborateurs, soit de ceux qui ont aidé l'armée française. Donc, je dis les choses un peu d'une manière très objective sur le plan historique. Après, je laisse les appréciations personnelles aux uns et aux autres. Hein. Donc, mais on les appelle les Harkis aujourd'hui. Hein. Donc, on les identifie comme tels sur le plan sociologique. Donc, les Pieds Noirs et les Harkis ont dû quitter l'Algérie très rapidement et avec précipitation parce qu'ils risquaient justement leur vie. Le 1,5 million des Pieds Noirs arrivé sur le sol français, va réussir petit à petit à s'intégrer dans la société française, dans la population nationale. Mais tel ne sera pas le cas des 80 000 Harkis qui ont dû se battre pour avoir en fait leur reconnaissance qu'en 2001. 62-2001. Par le président Jacques Chirac, c'est qu'on les a reconnus. Mais autrement, jusqu'alors, on ne les a pas reconnus. Et parmi eux, il y aura des enfants qui vont être issus. Et c'est important de le souligner. De l'autre côté de la Méditerranée, les choses ne sont pas non plus agréables, ne sont pas bien. La situation économique et politique au lendemain de l'indépendance a fait fuir la main-d'œuvre algérienne. Vous savez, c'était un humoriste algérien, mais très très cultivé, qui disait « Bon, la France nous a donné l'indépendance, mais elle ne nous a pas donné le mode d'emploi qui va avec. » Donc, et du jour au lendemain, tout un pays qui se retrouve avec l'indépendance, mais comment faire ? Donc, il faut quand même préparer des gens pour diriger un pays, surtout un pays aussi complexe et aussi important que l'Algérie. Donc, l'indépendance n'est pas une fin en soi. Après l'indépendance, le pays s'est retrouvé vraiment dans de véritables crises. Il y a eu un coup d'État dès 65, donc 3 ans après, il y a eu un coup d'État, Wallgondien, qui a été ramené de l'exil, etc. Bon. Et toute cette instabilité politique et instabilité au niveau de ses sécurités a poussé beaucoup de partir en exil ou de venir en France. Parce qu'à l'époque, la plupart d'entre eux sont aussi des Français, hein, donc ils avaient aussi la double nationalité. Donc, à partir de 65, il y a ce flot qui n'a cessé de croître pour atteindre, en 1973, 850 000 immigrés, ce qui représente à vrai dire deux fois le nombre d'Algériens qui ont quitté l'Algérie au lendemain de l'indépendance. Donc, 72, 73, 10 ans après, il y a une vague deux fois plus importante que la première qui sont venus ici en France. Et en 74, en France, on a supprimé, on a suspendu l'immigration des travailleurs salariés. Et à partir de là, tous ceux qui venaient travailler et faisaient des allers-retours entre la France et leur pays d'origine, l'Algérie, mais aussi, c'est aussi vrai pour la Tunisie et pour le Maroc, pour l'Afrique du Nord, se sont dit, eh ben, il faut qu'on fasse venir nos enfants et nos épouses. Et c'est grâce donc au statut de regroupement familial, ce sont eux qui vont faire venir, la plupart d'entre eux sont jeunes, donc leurs épouses et les enfants en bas âge. Donc vous avez ces enfants qui arrivent, cette première génération, et les enfants qui vont naître de ces familles. Et ce sont ces deux qu'on va par la suite, les sociologues vont appeler par la suite la seconde génération. Les estimations de cette seconde génération, donc de ces enfants arrivés et de ces enfants nés sur le territoire, va entre 1,5 à 2 millions. Après, bien sûr, il y a les enfants des enfants, hein, mais là, je vous parle vraiment de la première tranche, de sa première génération, soit arrivée petit ou bien carrément née aussi en France des années 70. Suite à la crise des logements, dans les années 70, on voit apparaître des habitations à loyer modéré, ce qu'on appelle des HLM. Et initialement, ces HLM, à vrai dire, étaient destinés pour les cadres pour une période transitoire, pour permettre aux cadres de s'insérer, d'acheter quelque chose de meilleur. Mais peu à peu, ces habitations ont été tout simplement désertées par ces cadres moyens. Alors on a commencé à reloger ces familles nombreuses, des immigrés, des bidonvilles, des centres-villes dégradés. Et très vite, dans ces banlieues, on voit apparaître, on voit se développer des maux, M-A-U-X, des maux, qui n'ont cessé de s'aggraver avec les années. Il y a la discrimination, le ghetto, des jeunes déscolarisés sans diplôme, et ainsi de suite. Et en plus, ces cités vont devenir le théâtre de beaucoup de violences, de la drogue, de trafic, des trafics commerciaux, etc. Et pendant toute cette période, les parents ont nourri le souhait de repartir pour s'installer chez eux. Repartir après le travail, donc de repartir. Mais à la fin des années 70, donc on s'approche des années 80, à la fin des années 70, il s'est opéré un changement radical et capital au sein de cette population. On a assisté à un passage du mythe de retour au pays nourri par les parents aux revendications, à la citoyenneté réclamée par les enfants, par cette seconde génération. Donc les parents voulaient partir, mais la seconde génération dit « on va où ? C'est ici, maintenant, chez nous. » Malgré les incitations des deux rives, d'ailleurs, de la Méditerranée, pour faire venir non seulement les parents, mais aussi cette seconde génération, mais ces incitations sont restées sans fruit. Vous savez, bon, il y avait par exemple une promesse, les 10 000 francs à l'époque que proposait le gouvernement français, c'était en 1970. Mais cela n'a pas vraiment fonctionné. Il y a eu les statistiques, il y a eu 3%, autour de 3% d'Algériens qui ont accepté de repartir, 6% de Marocains et 8% de Tunisiens. Mais par contre, il y avait 25% d'Espagnols et presque 40% de Portugais, pour qu'après on se retrouve dans la communion. Dans la communauté européenne. Donc, ils ont bien profité de cette offre, mais voilà. Donc, ça n'a pas porté ses fruits. Et puis, même les autorités algériennes, le gouvernement algérien avait demandé pour que ces gens reviennent avec une somme d'argent considérable, mais là non plus, cette seconde génération a rejeté complètement cette offre. Même En 1981, il y a eu à nouveau un appel des autorités algériennes et ils ont refusé. Toutes ces incitations n'ont porté, à vrai dire, aucun fruit auprès de cette génération qui réclame simplement le droit à la citoyenneté. Et là, on arrive aux années 80. On s'approche, hein. J'espère que vous tenez bien la route. Donc, on s'approche. Les années 80. Dans les années 80, il y a deux mouvements qui vont faire parler d'eux, bien entendu. Ça, c'est l'extrême droite pour ceux qui ont de la mémoire. Mais le deuxième mouvement, c'est la seconde génération. Ce sont ces jeunes. Au mois de décembre 1983, à l'initiative des jeunes de banlieue lyonnaise, il y a eu une marche des beurs qui révèle à la France tout entière l'existence d'une jeunesse qui réclame le droit à la citoyenneté et que cesse des crimes racistes. En effet, depuis quelques années, avant cette marche, il y a eu à plusieurs reprises des violences entre les forces de l'ordre d'un côté et ces jeunes de la banlieue, de la cité, en particulier de la cité à Lyon, de la cité Vinicieux, de la cité Minguette. Pour les uns, il faut éradiquer la délinquance et le grand banditisme dans ces cités, dans ces zones qualifiées déjà à l'époque des zones interdites. Mais pour les autres, au contraire, il faut se faire entendre face à ces autorités qui abusent de leur pouvoir. On recense donc au début des années 83, 22 personnes en France qui sont victimes, ça c'est les rapports officiels, hein, qui sont victimes de la haine anti-arabe. Le 21 juin, c'est le leader SOS Minguette, Tommy Jaida. Ce jeune est fils d'un harki. Donc, enfant d'un harki, grièvement blessé par un policier, il a été interpellé et c'est de lui qui va venir un appel. Il n'est pas seul. Il va rencontrer un homme, prêtre catholique, Christian, le père Christian Delors. Tous les deux vont réfléchir pour organiser une marche. Ils vont s'inspirer de Gandhi et de Martin Luther King pour envisager donc cette marche et pour demander le droit à la citoyenneté. Ils ont décidé donc d'appeler à une marche non violente depuis Marseille jusqu'à Paris pour réclamer le droit à la citoyenneté. Le 15 octobre 83, 15 personnes dans la cité de la Cayolle, à Marseille, ont commencé la marche. 15 personnes. La marche en direction de Paris. Au début du mois de décembre, donc octobre-décembre, au mois de décembre, ce fut une foule immense qui arrive dans les rues de la capitale. Et contrairement aux clichés, on trouve parmi, dans ce mouvement, des personnalités féminines. Il n'y a pas que des garçons, il n'y a pas que des hommes. Il y en a un certain nombre. Et ce mouvement, donc, qui se veut pacifique et festif, arrive à Paris et il a été reçu le 3 décembre par le président Mitterrand, à l'époque, à l'Élysée. Et à l'issue de cette rencontre, rien de leurs revendications n'a été accordé. En fait, le président Mitterrand a accordé aux émigrés la carte de séjour de 10 ans. Sauf que cette seconde génération sont des Français. Ils n'avaient pas besoin d'une carte de séjour de 10 ans. À vrai dire, cette carte de séjour, elle a été proposée, c'était la revendication des Algériens, mais qui n'avaient pas de nationalité ou qui ne voulaient pas avoir la nationalité française. Vous savez, en 62, ils avaient la possibilité soit de renoncer à la nationalité ou de la garder. Donc Mitterrand a répondu finalement à une demande, n'est pas de cette jeunesse-là, mais une demande de leurs parents. Des parents qui ont d'ailleurs refusé d'avoir la nationalité. Les enfants de cette seconde génération, qui sont donc nés en France, avaient le droit, ils sont des Français. Formellement, ils sont des Français. Donc cette marche est loin d'aboutir au même résultat que celle de Martin Luther King. Les revendications à la citoyenneté donc vont rester un peu sans suite. Et d'après le sociologue Saïd Bouamama, il dit... On a voulu séparer les enfants qui sont assimilables des parents qui ne sont pas assimilables. Mais malheureusement, les autorités politiques n'ont pas saisi le moment historique. Il y a comme ça des moments historiques. Vous savez, j'ai entendu Gilles Kepel, qui est l'un des grands politologues sur la question de l'islam et de djihad en particulier, dire par moment que peut-être nous payons aujourd'hui avec le terrorisme, avec ces jeunes radicalisés, peut-être nous avons payé l'erreur de 83. L'erreur de l'Élysée, de 1983. Voilà, c'est son analyse. Hein, Il y a d'autres manifestations qui vont suivre, comme par exemple la fête des potes, etc. Mais le malaise va continuer quand même à habiter cette génération, ces jeunes, ce malaise va continuer à les habiter. Et dans les années 90 et les années 2000, il y aura beaucoup de projecteurs qui vont être posés sur cette génération. L'avantage aussi de la période des années 80, c'est que beaucoup de sociologues se sont dit maintenant il faut absolument qu'on s'arrête et qu'on réfléchisse qui sont ces gens. Et toutes les études, on les doit sur cette seconde génération, on les doit à des chercheurs qui ont pris le temps de réfléchir à ce moment-là. Dans les années 90 et 2000, beaucoup de projecteurs donc vont se poser sur ces jeunes issus de l'immigration, mais il y a toujours, il faut dire, la stigmatisation qui est au rendez-vous, mais en même temps, il y a la stigmatisation d'un côté, il y a des études qui se sont développées de l'autre côté. Ces années vont permettre aussi de voir des personnalités politiques, sportives, qui sont issues de l'immigration et qu'on va voir sur la scène politique. Vous savez, on peut citer ici la première femme qui a été née d'un ouvrier algérien qui a intégré le gouvernement français, c'est Tokia Seyfine, qui a été nommée comme au poste de secrétaire d'État auprès du ministre de l'écologie et de développement durable dans le gouvernement de Jean-Pierre Raffarin en 2002. Et bien sûr, le deuxième, c'est le sociologue, Azouz Bigag, dans le gouvernement de Dominique de Villepin. Entre parenthèses, c'est marrant de voir que ce sont les deux gouvernements qui ont donné accès à cette population sont des gouvernements de droite et non pas de gauche. Et pourtant, ces revendications, souvent, sur le plan politique, sont portées, soi-disant, par la gauche. Bon, voilà. Après, bien sûr, maintenant, c'est devenu presque à la mode. Hein, si on n'a pas quelqu'un qui est issu de l'immigration dans son gouvernement, on va avoir un peu peur, enfin, on va avoir un peu de mal à faire passer le gouvernement. Sur la scène sportive, bien sûr, on peut se contenter ici de citer celui qui a été l'un des meilleurs joueurs de toutes ces dernières décennies, sinon de tous les temps, et qui commence à devenir maintenant l'un des grands entraîneurs, de sa génération, bien sûr, c'est Zinedine Zidane, qui est issu aussi de cette génération-là. Pour terminer sur cette seconde génération, je vous propose quelques considérations sociologiques et d'après, selon Raymond Levaux, qui est professeur émérite à l'Université de l'Institut des études politiques de Paris, qui conseille aussi, qui est aussi un bon conseiller, il écrit l'observation. Voilà, vous avez le texte. L'observation sociologique montre que ces populations sont bien intégrées au plan social et culturel, mais non au niveau économique. Et si on les appréhende à travers les schèmes, elles sont toutefois difficiles à compter, à nommer, à peine à se définir. Cette seconde génération a été longtemps oubliée de la politique française, de l'immigration. Les enfants des émigrés ont dû faire face aux ambiguïtés du modèle républicain avec sa spirale de discrimination. Malgré cela, ce groupe fait résolument partie de la société française. Il fait remarquer qu'en France, les leaders d'opinion aussi, qu'ils soient journalistes, écrivains, experts, seraient les principaux vecteurs d'une islamophobie latente qui se réfugie derrière le droit à la critique des religions et de la liberté de penser qui véhicule un certain nombre de stigmatisations à l'égard des musulmans et de l'islam. Selon Catherine Vitol, dont je vous ai parlé tout à l'heure, et son article remarquable, si vous voulez le lire, et je pense même que vous pouvez le trouver, je crois, sur Internet, si ma mémoire est bonne, écrit « La seconde génération est une génération souvent sans racines, sans repères. » Et ça, nous devons le savoir si on veut vraiment témoigner de l'Évangile. C'est une génération souvent sans racines, sans repères, sans espoir, refusant de reproduire à l'identique la condition des parents. Et cette génération a fait surgir les carences d'une société mal préparée à la recevoir, à la considérer comme une partie légitime de la société française. Mais en même temps, que dire du côté de ces jeunes? Eux-mêmes, ils ne savent pas, à vrai dire, qui ils sont, ils ne savent pas s'identifier, ils ont du mal à s'identifier. Ces derniers temps, malheureusement, ils s'identifient davantage par la religion. Or, vous croisez un Nord-Africain, ou vous allez en Afrique du Nord, vous croisez en Algérie, comme en Tunisie ou au Maroc, vous pouvez croiser un Algérien, il va vous dire, moi je suis Algérien, mais je ne suis pas obligé d'être musulman. Mais ici, en France, souvent la religion et on s'identifie davantage par la religion que par autre chose. Ils ont du mal, en tout cas cette seconde génération. Mais ce qui est certain, c'est qu'ils n'acceptent pas tous les noms qu'on leur a donnés. Vous savez, on l'a nommé, bien sûr, seconde génération, ce sont les sociologues. Mais il faut savoir aussi que cette génération a été nommée par la génération zéro, la génération de l'oubli, enfant illégitime, génération suivante, génération issue de l'immigration, jeune d'origine maghrébine, les beurs, la seconde génération, etc. etc. Donc, et il y a même Jean-Pierre Raffarin qui les a appelés des sauvageons. Bon, politique, enfin, qu'ils le disent. Chez lui, ça, c'est son problème, mais qu'ils le disent officiellement, ça pose un vrai problème. Donc, des sauvageons. Mais ceci dit, maintenant, Jean-Pierre Raffarin, c'était lui qui a été nommé pour être pour la fondation de l'islam. Hein, enfin, voilà. Donc, les choses évoluent. Donc, tous ces noms-là qui sont utilisés n'ont pas été acceptés et reçus. On a entendu parler de cette seconde génération. Bien sûr, il y a le problème du voile, du port de voile de foulard à l'école. Hein, rappelait de cet épisode où on avait parlé à cause de cela. Mais surtout, on parle de cette seconde génération à cause du mouvement salafiste radical qui a gagné ces banlieues et qui a gagné la cause de ces jeunes. Comme ils sont en quête d'identité, ils n'ont pas construit, il n'y a pas une identité solide qui a été construite, ils sont la proie de ce mouvement djihadiste. Et malheureusement, la plupart de ceux qui ont commis des attentats que nous avons connus maintenant, hélas, en France, mais pas seulement, sont issus de cette seconde génération. Et souvent, quand on regarde leur parcours, c'est des gens qui n'avaient pas de repères. Souvent, ils étaient en case prison, etc. Et donc, c'est un terrain propice pour cet enseignement salafiste, qui va jusqu'au djihadisme, mais pas seulement, en tout cas salafiste, où la seule identité qui compte, qui va bien au-delà de toutes les identités nationales, c'est l'identité religieuse. Quand vous trouvez quelqu'un qui n'est pas préparé, la réponse à cet enseignement peut être facile. Dernière chose, voilà, Joab m'a précédé, sur les nouvelles vagues d'immigration à partir des années 90. Il y a deux nouvelles vagues que j'aimerais mentionner. La première, c'est suite au terrorisme des années 90 en Algérie, mais aussi en Afrique du Nord. Suite à ces mouvements djihadistes, notamment le Front islamique de salut, beaucoup des jeunes, beaucoup sont venus, des intellectuels, sont venus en France pour trouver refuge aussi en France. Cette nouvelle vague d'immigration est constitué principalement des jeunes entre 20 à 30 ans, ou à 35 ans. Parmi eux, on compte bien sûr ceux qui sont venus parce qu'ils ont peur, c'est des intellectuels, etc. Il y a beaucoup aussi qui sont venus poursuivre leurs études, souvent au troisième cycle, deuxième, troisième cycle. Cette population est très différente de la seconde génération que je viens de décrire à l'instant. Ayant grandi dans leur pays d'origine, ils ne sont pas confrontés au problème de l'identité, ils ne souffrent pas non plus de complexes particuliers, ni d'un handicap quelconque majeur. Et d'ailleurs, s'ils ont réussi à arriver jusqu'ici en France, vu en particulier les années 90 à cause du terrorisme, des démarches administratives, ils ont dû manifester et montrer une ténacité remarquable. Très vite, donc, on remarque des différences entre cette génération qui arrive et ceux qui étaient déjà là, la seconde génération. Pour les uns, il n'y a rien à prouver ni à démontrer, sinon poursuivre son chemin, poursuivre sa vie personnelle, professionnelle, etc. Mais pour les autres, il veut toujours démontrer quelque chose. Pour les uns, il faut tout faire pour se libérer de cette culture un peu arabo-musulmane, ces gens qui sont arrivés, surtout après avoir vu des événements en Algérie, du terrorisme, etc. L'une des préoccupations, en fait, il y a certains qui se tournent vers le Seigneur pour avoir la foi chrétienne, et il y a d'autres qui deviennent athées. Et il y en a beaucoup. Mais ceux qui sont ici, au contraire, ils se réfugient de plus en plus dans la religion. Et donc, on trace comme ça des différences entre ces deux populations. Visiblement, il n'y a que l'origine qui les associe. Et je ne vous dis pas après les tensions qu'il y a parmi eux. Voilà, je suis à l'église, je vais vous dire. Vous savez, il y a certains traitent les uns de banlieusards et d'autres les traitent de blédards. Ça vous dit quelque chose, banlieusards, blédards, bled, hein, ça vient de... Bon, bref. Donc, visiblement, il y a vraiment beaucoup de différences. Et là, dans notre témoignage, il me semble que c'est important de savoir à qui on s'adresse dans les échanges. Bien sûr, vous n'allez pas lui dire ce que vous venez d'arriver les années 90 ou vous étiez là depuis les années 70. Mais dans l'échange, très rapidement, normalement, on va pouvoir identifier à qui nous avons affaire. Et il faut adapter notre annonce de l'Évangile parce qu'ils ont des attentes complètement différentes. Parler d'une identité à quelqu'un qui débarque d'Afrique du Nord, il n'a rien à serrer de ça. Il faut lui parler de l'Évangile, lui parler d'autre chose. Mais peut-être quelqu'un qui souffre de son identité, avant de lui parler de l'Évangile, peut-être lui présenter autre chose. Et puis il y a la vague, la nouvelle vague de réfugiés syriens suite aux guerres au Moyen-Orient, et à la Syrie en particulier, la guerre civile depuis 2011. Suite d'ailleurs aux printemps arabes, hein, suite à tous ces printemps arabes, on voit beaucoup de réfugiés venir en Europe. En 2015, les réfugiés syriens constituent la population de réfugiés au monde la plus importante, d'après les Nations Unies. Il y a 4 millions de réfugiés syriens qui ont fui le pays pour trouver refuge. Heureusement, ils ont été accueillis au Liban, en Turquie, en Jordanie, etc. Mais il y a certains qui sont arrivés jusqu'à nous, et ça grâce, entre autres aussi, à la fille d'un pasteur. La chancelière allemande Angela Merkel, qui s'est souvenue des principes bibliques de l'accueil du faible, d'un réfugié. Les réfugiés syriens ne sont pas donc arrêtés simplement en Allemagne, avec toute la complexité que ça pose comme situation, mais bien sûr un certain nombre d'entre eux sont parvenus jusqu'à nous, même très proches de nous, puisque nous les trouvons ici à Clichy, et ils sont ici à la chapelle, à la chapelle. Et il y a des associations évangéliques qui sont très impliquées auprès de cette population. Il y a en particulier l'association Audiovie, qui est dirigée par Daniel Houdon, très bon ami. Il nous arrive souvent d'animer des conférences ensemble. Et aussi, ancien Front National. Et maintenant, il fait un travail extraordinaire auprès de cette population. L'Évangile est passé par là. Autre association, c'est At Home, que nous connaissons aussi, qui travaille un petit peu avec, d'une manière directe, plus ou moins directe, etc., avec notre Église. Ils connaissent bien Clément et Jean-Paul aussi. Probablement, on aura l'occasion de reparler le moment venu. Et eux aussi, ils font un bon travail. Elle a été fondée par Samir Salibi, qui est aussi un ancien, très bon ami. Nous avons été à l'université ensemble, au GBU. Un Libanais, mais un homme remarquable. Et notre Église, donc, veut aussi venir avec le peu de moyens que nous avons auprès de ces populations. Mais nous devons donc faire toutes ces distinctions. Un musulman, il n'y a pas qu'un seul, donc toutes ces distinctions, si on veut apporter l'Évangile d'une manière adaptée à ces musulmans de France. Donc, malgré ces nouvelles vagues, me semble, de nouveaux musulmans, aussi bien les vagues de 90 que celles que nous connaissons maintenant, il me semble quand même que la composition principale de la communauté musulmane en France est composée donc de musulmans de cette seconde génération, donc de ceux qui sont venus dans les années 60-70. Et il nous faut tenir compte, si nous voulons apporter un témoignage adapté, nous ne pouvons pas ignorer leur situation. Et tous les regards historiques et tous les regards sociologiques aussi que les spécialistes ont réussi à poser sur eux, et ces éclairages peuvent nous aider pour annoncer un évangile d'une manière et d'une manière adaptée. Donc il serait une erreur, même injuste à mon sens, de notre part, de ne pas tenir compte de ce parcours de cette différente population à laquelle nous voulons annoncer l'Évangile. Et ce parcours ne date pas simplement de la seconde génération, comme j'ai tenté de le faire rapidement, date de la fin du 19e siècle. Et autant que chrétiens vivant en France, il nous appartient de nous faire les prochains de ces gens-là, il nous appartient de nous rendre les prochains de ces personnes-là, avec tous les risques que cela implique. Quel est le risque que cela implique? Premier risque, c'est de découvrir peut-être des choses qui ne sont pas très agréables, qui ne correspondent pas du tout à notre manière de faire, ni à notre manière d'être, ni à notre manière de penser. Mais on peut aussi découvrir de perles, rencontrer des personnes précieuses, et devant lesquelles on pourrait se sentir vraiment très petit, et desquelles on pourrait dire, mais Seigneur, c'est seulement que je peux leur ouvrir les yeux. C'est le risque que Jésus a pris en devenant notre prochain. Il a accepté de découvrir notre misère, notre péché, notre misère spirituelle. Mais il a su voir en nous aussi des hommes, des femmes, faits en image de Dieu. Et c'est ça ce qu'il répond à ce maître de la loi. Qu'est-ce qu'il lui dit ? Tu connais la loi, etc. Et le maître de la loi, dans la parabole du bon samaritain, il essaie de trouver des excuses. Jésus lui dit, celui qui a manifesté la miséricorde, le samaritain qui a manifesté la miséricorde à ce bonhomme frappé, presque laissé moitié mort, sur quelle base il lui a manifesté la miséricorde ? Parce qu'il est un homme. Ce n'est pas sur la base de la religion, ce n'est pas le lévite, ce n'est pas le sacrificateur qui s'est arrêté, ce n'est pas sur la base de la nation, c'est un juif comme nous. Non, c'est un samaritain, c'est un étranger, c'est un homme. Il a vu un homme, il a décidé de faire de lui son prochain. C'est ce que Jésus a fait. Il ne s'est pas limité de sauver les juifs, mais bien nous. Il a vu en nous des hommes, des femmes, en image de Dieu. Et c'est aussi ce que nous sommes invités à faire à l'égard de tous ceux qui nous entourent, mais puisque nous réfléchissons sur les musulmans, à l'égard des musulmans. Que le Seigneur nous aide. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. Il nous reste encore 5 minutes si vous voulez avoir une question, enfin, si vous voulez réagir, il n'y a aucun problème. Vous savez, contrairement aux prédications, lorsqu'on fait la prédication là, il n'y a pas possibilité de réagir lors des instituts publics. Vous avez le droit de réagir, si vous n'êtes pas d'accord, il n'y a aucun souci. Il faut juste réfléchir bien à vos arguments avant, mais il n'y a pas de souci. Allez-y, est-ce qu'il y a quelqu'un qui aimerait dire une chose ou l'autre ? Oui. Ah oui. Là, tu parles sur le plan religieux, sur le plan l'islam. Lors de prochains instituts publics, je parlerai des différents courants religieux, y compris en France, hein, qui traversent cette communauté. Là, je voulais parler sur le plan historique et sociologique, mais j'aborderai la religion, ce qu'il croit et tous les apports. Mais tu as tout à fait raison. Donc, la question que notre frère pose, c'est de dire, mais quelle est la responsabilité des politiques qui laissent finalement cette population infiltrée par des apports extérieurs, et en particulier des pays du Golfe. Vous savez, le salafisme vient du wahhabisme, qui est la seule école reconnue enfin en Arabie Saoudite. Et donc, oui, à cause de pétrodollars, hein, lors de l'arrivée, c'est des pays qui ont beaucoup de pétrole, et l'arrivée de dollars a permis d'avoir des richesses considérables et de financer pas mal d'étudiants. Lorsque j'ai eu un débat avec c'est le président de culte musulman de France qui me disait, je lui dis, mais comment se fait-il que cette école, en si peu de temps, elle a gagné, vous savez, jusqu'au 19e siècle, elle fait 2% de la population musulmane. Et maintenant, elle a conquis non seulement l'Arabie Saoudite, c'est normal, mais elle a conquis l'Égypte, l'Afrique du Nord et même l'Europe. Le salafisme devient, je dis, mais pourquoi vous avez trop dormi avant de réagir? Et il m'a dit, en fait, ce qui s'est passé, c'était les années 80. On a invité des étudiants, l'Arabie Saoudite a invité pas mal d'étudiants. Ils ont fait de leurs études là-bas, ils ont fait des thèses de doctorat, etc. Et ils les ont financés, et puis ils sont revenus. C'est vrai, ils sont revenus. Il y a beaucoup qui sont revenus en Afrique du Nord et qui sont revenus aussi en France. Et devant eux, ces imams classiques qui ne tiennent pas la route sur le plan théologique. C'est eux qui arrivent à convaincre. Bon, d'où la réflexion actuelle, y compris des autorités françaises, de dire comment on peut favoriser maintenant la formation des imams des autres écoles, des autres courants théologiques pour justement contrer cette mouvance-là. C'est ce qui a été fait en Algérie, à vrai dire. Le terrorisme en Algérie, les années 90, n'a pas été combattu simplement sur le plan militaire, mais aussi sur le plan dogmatique, sur le plan théologique. Il y a eu des écoles qui ont repris un peu des écoles de pensée, de théologie, pour enseigner aussi, pour que les musulmans ne tombent pas dans le piège de leur formation. Ah oui, oui, tout à fait. Ah oui, oui, bien sûr. Chacun a son rôle. Je pense que nous avons tous notre responsabilité face au danger, y compris nous, en tant que chrétiens. Ouais. Autre question, remarque ? Oui ? Avicenne ? Oui, Avicenne, non, il a pris le nom symbolique. Au début, on l'appelait l'hôpital franco-musulman de Bobigny, et après, on lui a donné le nom d'Avicenne. Avicenne, vous savez, c'est un grand penseur musulman, le médecin, un grand médecin, philosophe aussi. C'est lui, lors de ses études, c'est lui qui a organisé, c'est grâce à lui que nous avons des manuels de médecine, hein, donc il faut que ce soit vraiment très clair, hein, c'est lui qui a organisé la médecine dans des volumes et qui nous a ligués. Jusqu'à lui, il n'y a pas eu, d'un travail systématique qui a été fait, c'est lui qui a recensé tout. Et beaucoup de spécialistes disaient que Avicenne maîtrisait tout ce qu'on savait sur la médecine à son temps. Donc tout ce qu'on a écrit pendant des siècles et des siècles, là, il le maîtrisait. Et donc on lui a donné le nom d'Avicenne, comme c'est un grand musulman médecin, entre autres, mais pas que médecin, il était aussi théologien et philosophe. C'est pour ça qu'on lui a donné ce nom. Oui. Oui, c'est les réfugiés. Hein. J'ai évoqué un petit peu tous ces réfugiés. Je pense qu'il y a beaucoup d'associations qui font pas mal de choses. Les associations qui font ce qu'elles peuvent. Je pense qu'il y a les autorités aussi font. Mais est-ce qu'on fait assez face à la misère? De toute manière, on ne fait jamais assez. Face à la misère humaine, on ne fait jamais assez. Mais je pense que ce ne serait pas juste de dire qu'il n'y a rien qui est fait en leur direction. Mais en disant cela, je mesure aussi qu'il y a énormément de choses à faire. Mais peut-être, Clément, je sais peut-être d'autres personnes dans la salle sont mieux informées, parce que je savais qu'il y avait une sœur aussi de notre église qui est très impliquée là-bas. Elle vient de temps en temps à notre église. Attends, oui, elle est là? Ah oui, excuse-moi. Oui, tu es. Ah oui, d'accord. Oui, tu, bonjour. Oui, très bien. Yuna. Voilà, donc notre sœur qui est très impliquée dans le travail auprès de ces réfugiés nous dit que c'est très très insuffisant ce qui se fait, tout en soulignant le travail des associations, des bénévoles, des associations engagées. Merci. Merci beaucoup pour votre...